Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quand même une décision d'essayer d'avoir un enfant. Et puis, on est 2 ans et demi plus tard et puis, c'est pas encore arrivé.
Du coup, je m'étais dit, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Mmh. Et effectivement, ça se passe pas comme ça.
Je pense que de tout temps, on a désiré des enfants et on a eu des projets d'enfants.
Je me suis dit, jusqu'où je vais ? Enfin, qu'est-ce que je m'inflige pour avoir un enfant ?
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Marguerite.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Je vous en prie. Salut.
Merci.
Alors, Marguerite, Guillaume, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est notre désir d'enfant.
Mm-hmm.
C'est le sujet du jour.
Tout à fait. Alors, comment l'un et l'autre, peut-être on pourrait commencer par vous nous racontiez votre rencontre, peut-être ? Comment vous êtes rencontrés l'un et l'autre ?
Assez simplement, sur Tinder. Il y a de ça maintenant 5 ans, je pense. Ça a été une rencontre très douce. Ça a été, on s'est rencontrés, on a pris le temps de discuter, de faire des activités ensemble avant de dire que c'était une aventure qui pouvait commencer.
Mm-hmm.
Voilà.
Et du coup, votre désir d'enfant à chacun, comment il s'est construit par rapport à cette rencontre ?
Ça s'est construit, déjà on a emménagé ensemble, on a commencé à vivre ensemble, à vivre bien ensemble, à être, tout était assez facile, simple, sans trop de secousses, je dirais. Et puis le désir d'enfant est venu comme ça.
Ouais, tout aussi naturellement, je pense.
Ouais.
C'est bizarre parce qu'en en parlant, du coup, on a toujours l'impression que c'est un peu le schéma classique. Hein. C'est vrai qu'on se rencontre, on emménage ensemble, et puis ensuite, petit à petit, on se dit qu'il fait un peu petit, qu'on imaginerait bien une chambre en plus, et puis voilà quoi. Enfin, c'est vrai que ça a jamais. Je pense qu'on n'a jamais eu le grand soir où on s'est dit j'aimerais un enfant. Mmh. Il y a plein de représentations très romantiques qui viennent avec, alors que finalement pas du tout. Je pense que pour la plupart des gens c'est la même chose. Ça vient un jour naturellement. On se dit ce serait pas con hein, plutôt qu'un chat un enfant.
Donc là vous dites bien dans quelque chose. De l'ordre d'une continuité pour vous deux. Est-ce que avant de vous rencontrer, c'était quelque chose l'un et l'autre auquel vous aviez déjà pensé, le fait d'avoir des enfants ou pas ?
Oui. Mm-hmm. Moi, j'en voulais 4 à 10 ans, donc non, j'ai toujours eu envie d'enfants. Après, c'est une envie qui a vraiment pris forme avec Guillaume. J'avais pas envisagé de devenir maman avant, vraiment. Enfin, de me dire, ça y est, je peux sauter le pas. Je suis confiante, j'ai le bon partenaire. Ça va être cool. Enfin, j'ai projeté en tout cas une certaine douceur dans le projet. Mmh. On communique énormément. Donc, on s'est dit qu'a priori, il n'y aurait pas de raison que ça change avec un enfant, en plus, dans la donne. Pour vous, Guillaume, est-ce que, en tout cas, Marguerite vient de nous dire voilà, qu'il y avait quelque chose d'un désir très ancien dans le fait d'avoir des enfants. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est ?
Ça remonte pas à 10 ans. Non, non, clairement. Non, ça, je pense que ça a jamais été quelque chose de complètement exclu. Après, je pense que ça n'a jamais été quelque chose qui s'est matérialisé. Enfin, la question s'est déjà posée, évidemment, dans le passé. Aussi, peut-être quand j'avais 17-18 ans, j'ai peut-être dû me dire que j'aurais jamais d'enfant. Mais non, non, ça, c'était quelque chose de présent. Et après, il faut effectivement rencontrer la bonne personne pour que l'envie se matérialise, quoi, pour que ça soit pas juste une idée complètement abstraite, mais qu'on commence à penser à autre chose, à des éléments beaucoup plus concrets, les éléments de se projeter sur une éducation, se projeter sur un avenir financier, se projeter sur toutes ces choses, jusqu'à ce que il y a un moment où je trouve ça rentre dans le concret. Après, voilà, pour nous, cette entrée dans le concret est plus compliquée que prévu. C'est à partir du moment où, je trouve, on se projette réellement sur des éléments concrets que l'idée est un peu plus ancrée.
Oui, que l'idée devient un projet concret fait de chair et d'os, d'une certaine, en tout cas se matérialise. Ouais, du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous ? Vous disiez voilà, que cette concrétisation, elle est voilà, un peu plus... En tout cas, pas celle à laquelle vous vous attendiez.
Il se passe que c'est plus long que prévu. On a pris... finalement, ça, c'est quand même une décision. Donc, cette décision, on l'a prise il y a 2 ans et demi, d'essayer d'avoir un enfant. Et puis, on est 2 ans et demi plus tard. Et puis, c'est pas encore arrivé. Donc, on a essayé de...
On a décidé de se faire aider.
Ouais, c'est ça. Décider de se faire aider et accompagner, sur le sujet. Donc, passer par un parcours PMA en écoutant et en allant vers les recommandations données par les médecins, tout simplement, parce qu'on n'avait pas forcément d'idée préconçue de ce que ça impliquait, de ce que c'était, le parcours en tant que tel. Et puis, on est dedans.
Comment ce passage il s'est fait pour l'un et pour l'autre ?
Pour moi, en tout cas, en en parlant, ça s'est matérialisé quand on a eu ce rendez-vous avec la gynécologue de Marguerite, hein, qui nous a dit ça faisait un an à peu près qu'on essayait, 12 mois. Ça fait un mois que vous essayez, ça marche pas, vous faire aider. Et il y avait un truc un peu c'est comme ça quoi. Enfin. Et c'était évident. Enfin, c'est une évidence. Enfin, ça n'a pas du tout été pris comme. Mais c'est vrai que c'était une évidence. Enfin, c'est devenu une évidence à ce moment-là. Du coup, j'avoue qu'on en a beaucoup beaucoup parlé, mais ça a jamais posé plus de questions que ça. Quoi. Enfin, il faut se faire aider. Enfin, on n'est malheureusement pas les seuls sur Terre. Et puis c'est pour un beau projet, donc ça n'empêche pas de continuer de manière naturelle et. Et voilà, et si ça arrive, enfin, l'important c'est que ça arrive, la fin justifie les moyens un petit peu. Enfin, jusqu'à un certain point, bien sûr.
Vous en pensez quoi, vous, Marguerite ?
Moi, je l'ai vécu peut-être un peu différemment. Parce que, en fait, le fait de devoir médicaliser quelque chose qu'on a toujours, en tout cas un désir qu'on a toujours envisagé physiologique, naturel, si je peux dire. Ça comme ça, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais ensuite, sur le fait de se faire aider, ça a été plutôt assez rapidement accepté. C'est plus la question du parcours, tout ce que ça implique sur le corps, les piqûres, les heures fixes. Tout ce que j'avais pas visualisé au tout début du parcours et que j'ai finalement réalisé en rentrant dedans. Et donc là, ça a été... plus compliqué à accepter, mais en même temps, c'est comme disait Guillaume, la fin justifie les moyens, donc on finit par accepter. Puis je suis très soutenue, donc je me sens pas du tout toute seule dans mes crises d'hormones et, et de fatigue. Et quand il faut que je me couche en traitement à 8h15, je vais me coucher à 8h15, et puis il n'y a pas de débat, quoi.
C'est vrai qu'après après l'idée, la concrétisation a été vraiment effectivement très différente.
Oui, c'est-à-dire, Guillaume ?
On a un peu, moi j'avais vraiment l'impression en me disant il faut se faire aider, on va se faire aider. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment un côté ça y est, la science s'en mêle. Donc on va tomber sur quelque chose de dur comme fer. Et en gros, comme il n'y avait pas vraiment de problème avec nos fertilités respectives, Du coup, je m'étais dit, bon, bah voilà, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Et effectivement, ça se passe pas comme ça. Et ça a été un long parcours pour le découvrir et pour l'accepter. Le fait que malgré le parcours...
Voilà, avec des ondes de choc quand même assez importantes.
Alors là, dans ces ondes de choc, j'entends voilà, qu'il y a eu des tentatives, qu'il y a eu des tentatives qui n'ont pas abouti, donc des échecs de tentatives. Est-ce que vous avez eu l'impression, l'un et l'autre, voilà, que ça faisait vaciller votre désir d'avoir un enfant ?
Ben, moi, je sais que sur le dernier, oui, ça m'a un peu remué. Je me suis dit, jusqu'où je vais ? Enfin, qu'est-ce que je m'inflige pour avoir un enfant ? Corporellement et émotionnellement, et comment je peux me remettre à chaque fois de ces échecs, en fait, de ce qui est appelé un échec, alors que, j'ai un peu du mal avec tout ça. Maintenant, comme à chaque fois, ça remonte. Donc après, il y a une période de creux, et puis après, on y retourne. Hein. Parce que l'objectif, il est quand même... Il reste le même. Après, c'est juste qu'on peut être... Il y a des moments où c'est plus évident que d'autres.
Et pour vous, Guillaume ?
Bah, c'est vrai que pour moi, c'est très différent parce que la peine physique et la charge que ça représente, en fait, la charge que représentent toutes ces transformations, on peut qu'essayer de l'imaginer de manière très lointaine. Et je suis incapable de savoir ce qui se passe dans son corps à ce moment-là. Donc on cherche à accompagner, on cherche à aider, on cherche à être présent. En plus, en période de Covid, ça a été encore plus compliqué parce qu'on peut pas être là aux instants clés, on peut pas être là pendant les rendez-vous médicaux, on peut pas être là.
D'autant plus qu'au premier rendez-vous, on te dit un enfant, ça se fait à deux. Ouais. Et après, tu fais tous les rendez-vous seuls.
Était avant Covid, ouais, c'est vrai que ça a été.
Le premier rendez-vous, on était tous les deux.
Donc on accompagne, on reste dans la voiture, on reste à la cafétéria juste à côté, et on reste un peu... Enfin, d'une manière générale, je trouve que particulièrement, il y avait quelque chose de très symbolique sur le fait de rester sur le palier, finalement, quoi. D'entrevoir, mais pas pouvoir toucher du doigt, de pas savoir ce qui se passe exactement. Donc c'est vrai que là-dessus, je peux que être à l'écoute, finalement, de Marguerite et de l'expression de... le jour où elle me dit « écoute, non, j'en peux plus... Je veux pas qu'on aille plus loin », bah effectivement j'écouterai et je suivrai. Enfin, je veux dire, c'est désir d'enfant ne pourra jamais supplanter sa capacité physique mentale d'ailleurs à endurer l'épreuve qui est la nôtre.
C'est ça votre limite que vous parliez tout à l'heure. Voilà, la fin justifie les moyens jusqu'à un certain moment donné.
Elle est, la limite, elle est exactement là à partir du moment où. On ne fait pas un enfant non plus, jusqu'au point de peut-être fissurer le couple aussi. Quoi. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, pour ma part, un enfant ne pourra jamais remplacer mon couple. Et jamais je risquerai mon couple pour un enfant, pour ma part. Ça, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé.
Ouais. sur le fond, je suis assez d'accord. Et après... il y a d'autres manières d'avoir des enfants aussi, donc voilà. Pas obligé de passer par mon ventre. Donc voilà, ça c'est un truc aussi qu'on a pas forcément abordé, mais qui est présent, on a énoncé, et puis on n'en est pas là, mais c'est énoncé. Et puis après, pour l'instant, ça va, je tiens le coup, donc on continue, on avance.
Merci à tous les deux. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte, Estelle Filippo-Métro. Bonjour Estelle Filippo-Métro.
Bonjour à tous.
Vous êtes psychopraticienne et analyste transgénérationnelle, créatrice d'une consultation spécialisée d'accompagnement préconceptionnel que vous consultez à distance pour les personnes francophones. Dans mon cabinet, j'accompagne des couples, des femmes qui se questionnent, s'interrogent sur leur désir d'enfant. Quand ils viennent me voir, avant de se lancer dans l'aventure, ils se questionnent souvent sur ce qui motive leur désir. Et est-ce qu'ils veulent avoir des enfants et pourquoi ? Lorsqu'ils consultent alors qu'ils rencontrent des difficultés à concrétiser ce projet, comme Marguerite et Guillaume, d'autres questions apparaissent, comme quoi faire, jusqu'où aller pour réaliser ou non ce désir, dans quelles limites éthiques, pourquoi leur désir d'enfant est-il déçu, comment vivre au mieux cette attente, ce parcours, comment mettre toutes les chances de son côté. C'est sur toutes ces questions, Estelle, que vous allez nous éclairer afin de mieux comprendre ce qui se joue autour de cette question du désir d'avoir un enfant, des enfants.
Tout d'abord, Estelle, cette notion du désir d'enfant, est-ce que c'est une notion récente ou ancienne?
Alors, je pense que de tout temps, on a désiré des enfants et on a eu des projets d'enfants. Il y a d'ailleurs, on entend hein, dans votre expérience et dans votre dans vos propos, Marguerite et Guillaume, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de désirer, d'avoir l'idée d'un enfant, l'envie d'un enfant, et puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est de l'ordre du décider, de rendre concret, dites-vous, de matérialiser, de se projeter. Donc dans le désir d'enfant, il y a ces deux facettes, d'un désir plutôt inconscient qui affleure à la conscience à certains moments, et puis quelque chose de la décision. De tout temps, il y a eu ça. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? C'est peut-être que anciennement, le désir d'enfant individuel, je dirais, venait s'articuler avec des projets d'enfants plutôt familiaux, plutôt sociétaux. Là où aujourd'hui, avec la maîtrise de notre fécondité, avec la contraception, avec la pilule, eh bien, le projet d'enfant est un projet individuel. Chacun peut avoir en partie, en tout cas, la main sur ce choix de rendre possible ou pas l'incarnation de son désir. Et ça, ça induit peut-être une forme de pression sociale qui est intériorisée aussi, et une forme de responsabilité importante. Vous évoquiez les conditions que l'on se donne pour réaliser, concrétiser, matérialiser ce projet d'enfant. Pour certaines personnes, ça va être des conditions temporelles, c'est le moment, on a l'âge ou on n'a pas encore l'âge ou on n'a plus l'âge. Pour d'autres, ça va être des conditions matérielles, est-ce que financièrement on va pouvoir assurer, élever ses enfants et se projeter dans le temps. Ça peut être aussi des conditions relationnelles. Vous évoquiez très bien comment vous étiez attentif à ce que la douceur dans votre couple vous sécurise dans le fait que, et la communication aussi dans ce couple vous sécurise dans le fait que ce couple soit fonctionnel et qu'il puisse durer dans le temps. Donc ça fait partie de toutes les conditions que les uns et les autres, consciemment ou pas, essayent de réunir pour faire quelque part un choix responsable autour de ce désir d'enfant. Et à cela s'ajoute peut-être aussi la notion d'enfant désiré. Je crois qu'on est dans une société où peut-être plus qu'hier, on entend dans nos cabinets à quel point les personnes ressentent le besoin d'avoir été désirées, d'entendre qu'elles ont été désirées. Et donc pour les futurs parents, les devenants parents, cette exigence de l'enfant désiré.
Oui, là, de ce qu'il en est de leur propre histoire. Est-ce que Marguerite, Guillaume, vous savez quelque chose du propre désir de vos parents à votre égard, en tout cas dans le fait d'avoir des enfants?
Ma mère était ravie d'avoir une fille après un garçon. Donc j'ai eu la joie d'être bien habillée.
Oui, pareillement, moi j'ai été désirée aussi, je pense. J'étais le petit garçon après la fille.
On entend comment la façon dont on a été désiré puis accueilli, à la fois dans son rang, à sa place et dans son sexe aussi, va pouvoir être un élément porteur pour notre propre désir d'enfant.
Oui, et à l'inverse, on entend, en tout cas moi c'est quelque chose que je peux entendre fréquemment, voilà, la souffrance que ça peut être de ne pas s'être senti désiré, ce qui ne veut pas dire forcément quelque chose de la réalité du désir des parents, mais de comment c'est vécu et de l'impact que ça peut avoir, notamment quand on souhaite devenir parent.
Et l'exigence, du coup, que l'on se donne à soi de désirer cet enfant, et parfois le temps que peut-être inconsciemment on se donne, y compris parfois dans la douleur, pour désirer encore plus. J'entends pas ça dans votre témoignage à tous les deux, mais c'est quelque chose que j'entends parfois.
Comment il se construit, ce désir, Estelle ?
Alors, je crois qu'il se construit tout au long de la vie et il émerge à la conscience à des moments différents en fonction des personnes. On entend chez vous, Marguerite, comment finalement l'idée, l'envie a toujours
était là. Vous avez toujours imaginé, je crois, avoir des enfants, devenir maman. Ça renvoie peut-être à ce que Monique Bidlowski, dans une approche psychanalytique, nous disait du désir infantile qui imprègne notre désir d'enfant. Elle dit dans une forme de charade que mon premier dans le désir d'enfant de la femme, c'est le désir d'être identique à sa mère, que mon deuxième, c'est le désir d'obtenir comme elle un enfant de son père, donc la dimension oedipienne. Et puis, elle dit, mon troisième, c'est la rencontre amoureuse avec l'homme actuel. Et on entend ça dans votre témoignage, comment c'est votre rencontre qui aussi a donné forme, dites-vous, à votre projet. Alors, pour certaines personnes, c'est effectivement la rencontre d'un partenaire, d'une partenaire qui va être un élément, je dirais, déclencheur, qui va donner forme. Pour d'autres, c'est d'autres types de rencontres, j'ai envie de dire, qui vont donner forme. C'est-à-dire que moi, j'entends dans ma consultation des personnes qui disent « J'ai toujours imaginé que... » Souvent, d'ailleurs, je propose de faire un schéma ou un dessin du parcours du désir d'enfant ou du projet d'enfant. C'est toujours très intéressant, notamment en couple, que chacun partage finalement son histoire en regard du désir et du projet d'enfant, se donne à voir ça. Et pour certaines personnes ou certains membres du couple, parfois c'est « j'ai toujours imaginé », puis pour d'autres c'est « ça a émergé à un moment donné où je n'y pensais pas particulièrement, en particulier à l'adolescence ou au jeune adulte, je n'y pensais pas, c'était en dehors de mon champ de conscience, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, ce quelque chose pouvant être une rencontre avec un partenaire, comme je le disais, mais parfois c'est une rencontre avec, j'ai envie de dire, son propre corps. Ça peut être, les femmes parlent de l'appel du ventre, d'accord, d'une espèce de nécessité presque physique, impérieuse, mais ça peut être aussi la limite du corps. Pour certaines, ça va être le temps du corps, c'est-à-dire je sais que l'âge avançant, il faut que je fasse attention à ce qu'on mon horloge biologique. Pour certaines, ça va être un retour soit du corps, soit du corps médical, qui va faire savoir qu'il y a une limite à travers une maladie, à travers une insuffisance ovarienne, à travers une endométriose, à travers toute une série de pathologies qui vont faire entendre à cette femme que peut-être c'est le moment de mettre en œuvre le potentiel fécond de son corps et, ou fertile de son corps et qu'il ne faut pas attendre. Donc ça peut être une rencontre avec cette réalité du corps, mais ça peut être une rencontre avec des réalités plus psychiques, c'est-à-dire un besoin de passage à titre personnel, un besoin d'initiation, hein, porter la vie, me sentir femme en portant la vie. Ça peut être un besoin de transmission que les hommes évoquent aussi souvent. Ça peut être un besoin social de prendre une place particulière dans sa famille ou auprès de ses pères, de ses amis, etc. Et puis, il peut y avoir aussi la rencontre du temps. Quand je dis la rencontre du temps, c'est moi, c'est pas votre cas, je l'entends pas comme ça, mais dans ma consultation, j'entends souvent des personnes qui arrivent à mi-vie, on va dire, où le mi-vie s'approche, la quarantaine approche, où elle est déjà passée, et il y a comme une urgence à vivre, à donner un sens à sa vie. Est-ce que l'enfant suffit à donner un sens ? Peut-être pas, mais en tout cas, le sens est questionné à ce moment-là. Et aussi, peut-être une urgence à transmettre, où on se sent enfin prêt à transmettre. Et puis aussi, peut-être, une urgence à laisser une trace, à savoir que, voilà, j'aurais laissé quelque chose de sens dans ce monde, j'y aurais contribué d'une certaine manière, peut-être à travers des enfants qui me survivront.
Voilà. Oui, il peut y avoir aussi l'inquiétude de la vieillesse, de se retrouver seule.
Tout à fait, oui. Parce que à la quarantaine, nos propres parents vieillissant, oui. on se rend compte qu'un jour, on va se retrouver dans cette situation-là et que peut-être on aurait envie d'avoir des enfants, des petits-enfants autour de nous. En tout cas, cette question de qui s'occupera de moi ou à minima qui se souviendra de moi, je crois, est une question qui affleure à la conscience à ce moment-là.
Oui, là, dans tout ce que vous venez de dire, Estelle, j'entends beaucoup des situations et, voilà, que je peux accompagner, à la fois des mamans solo autour de la quarantaine, voilà, le couple ne venant pas, voilà, l'envie quand même de ne pas passer à côté, voilà, de la maternité, et donc là, le temps du corps, voilà, qui est pas parfois le temps du couple et donc la nécessité, ou que finalement il peut y avoir aussi plusieurs rencontres. Voilà, vous parliez de la rencontre du couple, la rencontre avec soi, de la rencontre par rapport à son histoire ou à sa famille, et que tout ça, ça parle beaucoup de l'élan vital aussi.
En effet, oui, je crois que ça fait partie des motivations de ce désir d'enfant, de vivre cet élan vital, de l'incarner et peut-être voilà, et de le sentir se perpétuer.
Marguerite, Guillaume, pour vous, voilà, de quoi il est fait votre désir pour chacun de vous ?
Justement, plus on attend presque, plus du coup on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut un enfant.
Et oui.
Enfin, en tout cas, je pense que il n'y a plus la spontanéité finalement de l'enfant à 20 ans qui était, enfin pour moi en tout cas, c'était l'âge de ma mère quand elle a eu son premier enfant, donc ma grande sœur. On n'est plus dans cette configuration-là, évidemment. Donc on se pose d'autant plus la question, je pense, de savoir pourquoi. Pourquoi, d'où il vient ce désir, effectivement, d'enfant. C'est pas juste parce qu'on a une pièce en plus dans son appartement, c'est pas parce qu'on a plus de moyens, ou c'est pas... Mais effectivement, du coup, on en a amené à questionner, est-ce que c'est parce que les amis autour ont eux-mêmes des enfants, est-ce que c'est parce que j'arrive à mes 35 ans, est-ce que c'est... On se pose toutes ces questions, et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de transmission, pour moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'on a toujours une raison très égoïste de vouloir faire un enfant, qui, en tout cas dans le sens où on a égo, envie, pour une raison qui nous est propre de projeter cet enfant dans un réel. En tout cas, moi, pour moi, c'est vrai que cette question de la transmission, de donner au monde quelqu'un que j'espère heureux et épanoui, c'était une dimension qui, au fil des années, est devenue de plus en plus agréable.
Quand il y a de la douleur, qu'il y a de la douleur physique et émotionnelle, comme vous l'évoquiez, Marguerite, et que dans la projection dans le temps, on se dit, mais quelle est notre limite ? Vous le nommiez tout à l'heure, ça devient probablement plus important encore d'explorer effectivement ce millefeuille du désir d'enfant que vous évoquiez tout à l'heure. J'aime à l'appeler comme ça parce que je crois que le territoire du désir est un territoire extrêmement complexe. Alors je n'en donnerai qu'un aperçu de cartographie, on pourrait en donner bien d'autres, mais je peux vous dire ce que j'entends. En fait, j'entends différents types de discours dans mon cabinet. J'entends c'est naturel, c'est normal, c'est l'amour, ou encore c'est vital. Alors j'en dis quelques mots. C'est naturel, c'est peut-être l'être vivant en nous qui veut être dans le mouvement de la vie, et qui veut, voilà, la femme qui dit qu'elle veut porter la vie, qu'elle veut mettre au monde, qu'elle veut nourrir un enfant, enfin dans une dimension assez mammifère, et en même temps, voilà, on est fait pour, donc c'est tout à fait normal, à la fois mammifère et humain, de vouloir expérimenter ce qu'il nous est possible d'expérimenter. Et puis j'entends aussi parfois le c'est normal, c'est-à-dire qu'en tant qu'être social, on a envie d'être, on peut avoir envie d'être un peu conforme à la fois à sa famille, à ses amis, au milieu dans lequel on évolue. On peut avoir envie de se sentir appartenir en ayant des expériences communes à ceux que l'on aime et qui nous entourent. Donc là, on veut faire du même, on veut faire comme, on veut soit aussi avoir l'identité de parent, le costume de parent ou le statut de parent, et puis aussi peut-être parfois solder sa dette avec ceux qui nous ont précédés. Voilà,
ça vous parle ? Je vous vois réagir à cette question de la dette.
Ah, c'est solder la dette que je trouve très très drôle. Hein. Voilà,
on
l'expression
nous a
est très heureuse. Hein.
Donner en retour, ouais, c'est une expression un peu psy, mais voilà, il y a cette idée de don et de contre-don. On a reçu la vie et vous le disiez très bien, hein, j'ai envie de transmettre à mon tour et de faire en sorte qu'un être heureux, épanoui, puisse venir lui aussi contribuer au monde. Il y a aussi quelque chose de ça. Voilà, j'entends aussi parfois quelque chose qui tourne aussi beaucoup autour de, j'irais, du roman d'amour. Du c'est l'amour, hein, c'est l'être intime en nous qui parle et qui dit j'ai fait une belle rencontre, une rencontre heureuse avec beaucoup de douceur et j'ai envie que ça se déploie, que ça se démultiplie, de connaître dans l'intime cette joie de partager avec une compagne, un compagnon, et de partager avec un enfant dans la création et aussi dans le donner-recevoir. Voilà, et peut-être aussi il peut y avoir dans cette motivation-là des choses qui sont de l'ordre, et je n'entends pas du tout chez vous, mais de vivre une deuxième enfance heureuse pour certaines personnes. Hein, voilà, c'est-à-dire que tout ce que je vais donner à cet enfant, toute la joie qu'il va déployer, peut-être ça peut réparer aussi certaines facettes de mon enfant intérieur.
Mais, et cette dimension d'ailleurs, souvent, en tout cas dans ce que je peux entendre, est source de culpabilité. C'est-à-dire que comme si on n'avait pas le droit de désirer pour réparer, alors qu'il y a, à mon sens, une forme de normalité aussi à ça.
En effet, je crois que le monde est une grande répétition. Le tout, c'est de répéter peut-être, en progressant, en avançant, avec plus de conscience, plus de vie, plus de joie. Donc, on parlera peut-être de cet aspect, effectivement, familial et transgénérationnel, mais il me semble qu'il y a des formes de répétition, et ce n'est pas égoïste, c'est la vie qui se poursuit, à mon sens. Voilà, et puis il y a un dernier axe autour de ce millefeuille du désir d'enfant, une dernière couche, je pourrais dire, qui est autour du... Pour certaines personnes, ça devient vital, on en parlait tout à l'heure, et vous parliez d'ego tout à l'heure, et oui, il y a quelque chose de l'ego, de ce je qui dit je, qui a besoin de survivre, quelque part, à la mort, et qui dit, je veux transmettre, je veux laisser une trace, et je veux qu'on se souvienne de moi, et est-ce que c'est illégitime d'avoir ce désir-là? Je ne crois pas, je crois que nous sommes... Notre désir, il est fait de toutes ces composantes-là, peut-être dans des proportions différentes en fonction des personnes. Et le plus souvent, ça va très bien d'avoir cette composition-là. Parfois, ça peut être un peu dysfonctionnel et on peut avoir besoin d'aller le déposer et de l'ajuster. Et puis, ça se pose aussi de façon... La composition du désir, elle peut être différente au sein du couple. Et quand on a des choix à faire dans un parcours dans lequel on attend un enfant, qu'il peut y avoir... un chemin à prendre ou un autre, qu'on peut se retrouver à la croisée des chemins. Vous évoquiez d'autres façons que de faire un enfant avec son ventre, d'adopter. Voilà, c'est loin, c'est...
Oui, c'est loin, mais n'empêche que ça donne poursuite au désir dans un moment où on est un peu secoué. On se dit, il faut peut-être envisager autre chose pour juste avoir l'envie de retourner dans le parcours dans lequel on est et d'y redonner de l'énergie. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a été une part de réflexion qui me permet aujourd'hui de me dire, j'ai un transfert dans 15 jours. On repose, on réinstalle aussi doucement, parce qu'en fait, il y a d'autres possibilités, mais de la même manière que j'avais jamais envisagé d'avoir un problème pour avoir un enfant. Du coup, en fait, chaque étape s'accompagne d'une projection plus lointaine, forcément. Enfin, en tout cas, moi, ça me permet de juste d'accepter la situation dans laquelle je me trouve et de construire... d'ancrer aussi, d'avoir cette capacité d'ancrage dans, ce sont des décisions, c'est un parcours, je continue à avancer, mais je sais que je vais peut-être reprendre 1, 2, 3, 4 murs, avec une bonne illustration qui sont sorties pendant quelques conversations, notamment le TGV à pleine vitesse qui rentre dans un mur.
En tout cas, la Marguerite, vous nous dites bien que cette projection, elle permet de nourrir cet élan vital.
Voilà.
Et finalement, de rester en mouvement, et puis de rester connecté à ce désir, et de continuer de le nourrir, de le faire vivre. Là, vous nous parliez, Estelle, de toutes ces couches du millefeuille. Il y a aussi... Alors, y venir justement, dimension consciente et inconsciente, vous l'évoquiez un peu, mais des couches qui restent toujours mystérieuses. Plein de choses qu'on peut explorer, auxquelles on peut se connecter, comprendre, dénouer, mais qu'il y a encore des parts très mystérieuses autour de cette question du désir d'enfant.
Alors, il y a toujours des parts qui nous échappent et il y a effectivement un grand mystère à ce que le corps se taise quelque part et le corps n'incarne pas notre volonté. Je suis très touchée par ce que vous dites du choc. De ce parcours-là, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, il faut faire entrer du tiers dans cette histoire, ça n'est pas rien, et comment on a besoin de se sécuriser, à la fois de se sécuriser dans une vision de différents possibles dans le futur, et puis effectivement d'aller au contact de ce qui motive et de ce qui nourrit notre désir. Et effectivement, il y a une part de mystère, il y a une part de conscience, mais il y a aussi une part d'inconscient. C'est-à-dire que je veux quelque chose, j'ai décidé, je suis en projet, je sens bien que j'ai envie. Et puis, en même temps, la réalité, ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas. comme puis, si ça se dérobait à moi.
Oui, et puis aussi l'angoisse de se dire, ben, j'ai pas envie de le faire payer quand ça arrivera, en fait.
Mmh.
Voilà. Ouais. Ça, c'est, je sais que c'est un des sujets sur lesquels j'essaye d'être extrêmement vigilante. C'est pour ça qu'il y a une limite aussi à ce désir, ou peut-être ce parcours, ou voilà, de se dire jusqu'où je peux aller pour juste être toujours dans ce même accueil.
Mmh.
De l'enfant, ce même amour, même si je pense que ça reste quand même très animal. Donc, ça reste, voilà, je sais qu'en tout cas de mon côté, c'est assez animal quand même comme désir. Maintenant qu'on en discute, voilà, à force d'entendre les couches du millefeuille, pas au point de ne pas être en capacité d'accueillir derrière.
Vous dites votre conscience de combien cette période-là, de l'attente et du parcours, est comme la préhistoire à la fois de cet enfant et de vous en tant que parent, et que la façon dont vous vivez cette préhistoire va avoir une incidence sur le vécu de votre grossesse, sur la naissance, sur l'accueil de cet enfant, sur la façon dont vous allez tisser des liens ensemble. Et je crois que vous dites aussi combien prendre soin de vous et de ce désir et de cet enfant qui est quelque part déjà là pour vous, est important, là, dès maintenant, pour que les liens se tissent déjà, sans faire des nœuds qui seraient trop serrés et inconfortables pour tous. Donc ça passe effectivement peut-être par aller questionner ce désir qui se dérobe en ne s'incarnant pas. Et ce que j'entends souvent, enfin, tout ce que je repère, c'est que peut-être parfois il y a un jeu qui dit je, il y a un désir qui est là et qui est réel et qui est authentique, en même temps qu'il peut y avoir, en tout cas c'est une hypothèse, des facettes de nous qui, pour toute une série de raisons, pourraient être gênée, je dirais, par ce désir, ou en tout cas pourrait porter d'autres désirs, et comme si, peut-être, pour certaines personnes, et c'est pas toujours le cas, mais il pouvait y avoir comme des conflits intérieurs inconscients, avec, voilà, comme si on appuyait sur l'accélérateur en même temps que sur le frein, quoi, pour dire simplement les choses. Donc, ça ne vous parle pas nécessairement, hein, c'est ce qu'il se passe parfois, et dans ces cas-là, voilà, vous le faites aussi, Mathilde, quoi, on essaye d'écouter, en fait, ces différentes facettes chez chacun des membres du couple, qui ont quelque chose à dire pour que, quelque part, elles s'entendent et qu'elles avancent dans le même sens.
Oui, en tout cas, là, vous évoquez, Estelle, cette question de l'ambivalence autour du désir.
Qui est structurelle, qui est là pour nous tous, c'est-à-dire que les personnes qui font des enfants sans même avoir besoin d'y penser, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, dans quelque chose de très naturel qui peut être l'idéal qui pourrait être l'idéal de chacun d'entre nous, vivent aussi cette ambivalence, apprécient aussi de mener d'autres projets dans leur vie.
Ouais, mais c'est vrai, pardon, mais il prend une part très différente pour quand on est dans un processus de PMA, parce que cette part de peut-être qu'il n'est pas vraiment désiré, elle devient très culpabilisante.
En effet.
Quand on nous dit ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en profite justement pour réagir, parce que c'est vraiment, ça fait partie du... Enfin, culturellement, c'est vraiment le truc. Comme on touche maintenant à... Bon, voilà, on est fertiles tous les deux. On n'a pas de problème à proprement parler. Oui. Du coup, il y a une part de culpabilité de se dire... Enfin, quand on entend justement ce discours de... mais peut-être qu'il... Enfin, parfois, il y a des barrières invisibles. Comme on touche vraiment à quelque chose dont on ne sait rien, il faut quand même. Quand Marguerite tout à l'heure évoquait le TGV en plein mur, le mur, c'est le mur de la réalité, et c'est le mur de l'ignorance. L'ignorance, on ne sait pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas à l'instant T chez nous, et pourquoi ça fonctionnera dans un mois. Ou pas. Et du coup, je trouve que c'est très compliqué d'entendre et de lire ces discours sur la barrière invisible, sur parce que finalement il y a un rapport très culpabilisant qui nous dit un peu c'est sûr que t'en veux vraiment de cet enfant, alors que oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, il est tout à fait réel pour Marguerite, je l'espère, et pour moi-même. Et j'en viens à dire je l'espère, alors qu'on le sait. Enfin, je veux dire, on est dans un processus où on en parle. Je pense que si l'un d'entre nous avait un doute, il serait tout de suite évoqué. Il n'y a pas de sujet tabou entre nous. Et du coup, on en vient à se dire, mais si ça se trouve, je suis rentré dans une voie, et finalement, enfin, alors que finalement, non, il y a un mur qui est l'ignorance. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention avec cette recherche de l'explication à tout prix. J'aimerais trouver une réponse à ce pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, si cette raison est médicale, par exemple. C'est pas le cas.
Malheureusement,
il faut faire avec.
Ce que vous dites, Guillaume, j'entends beaucoup de mes patients dire on m'a dit que c'était dans ma tête. Donc c'est suffirait d'aller chercher ce qu'il y a dans la tête pour tout débloquer. Bien en sûr. Effet, c'est terrible.
Non, mais surtout, pardon, mais c'est surtout qu'on a déjà suffisamment de rapports coupables avec nos modes de vie, avec le fait qu'on a été fumeurs l'un comme l'autre pendant des années. On s'est arrêté il y a maintenant 2 ans. Le fait, on ne peut pas sortir tard, il faut
pas avoir une vie saine,
il ne faut pas travailler trop tard, il ne faut pas que le travail soit
trop stressant.
Il
ne faut pas être trop stressé non plus.
Il y a tellement de barrières au fait d'avoir un enfant naturellement que si en plus de ça on nous rajoute une barrière psychologique, concrètement on ne s'en sort pas.
Par rapport à cette question de l'ambivalence, et que l'ambivalence et ce conflit n'annulent pas le désir. Voilà. Il me semble que cette ambivalence, elle fait partie de tout un chacun de nous. Et d'ailleurs, Marguerite, vous l'exprimez un peu en disant « j'ai peur ». Peut-être de faire payer des douleurs de ce qu'on vit à un enfant et que ça ferait vaciller le désir. Moi, j'entends beaucoup de femmes qui ont fait des parcours. Une grossesse se met en route et puis parce qu'elles se sentent mal, parce qu'il y a beaucoup de nausées, finissent par dire si j'avais su, je ne serais pas venue. Je caricature un peu. Mais pour moi, elles désirent avoir cet enfant. Et ce désir n'est absolument pas remis en cause.
Bien sûr.
Voilà. Et que parfois, il y a cette ambivalence qui est humaine.
Tout à fait.
Ce que vous disiez aussi, Marguerite, quand le mur, vous le prenez à 300 à l'heure, en effet, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a plus de désir, mais ça ne veut pas dire que le désir n'est plus là. Voilà, c'est un peu...
C'est la déception qui prend le pas sur le désir, en fait. Après, le désir, il est moins présent à ce moment-là, mais c'est juste parce qu'il n'a pas la place. Parce que du coup, il a été complètement... on m'a coupé l'herbe sous le pied.
Et du coup, on peut douter, en fait, de son propre désir, ce qui est bien dommage. Et c'est bien ça, je crois, le sens de nos pratiques, c'est de soutenir, en fait, ce désir, de le confirmer, de le valider, de dire que, bien évidemment, il est là. Sans quoi, vous ne feriez pas tout ce que vous faites depuis toutes ces années. Ça fait bien... Enfin, depuis... Voilà, c'est quelque... Vous auriez laissé tomber, si il n'y avait pas ce désir-là. En même temps que pour certaines personnes, et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, se pose la question du pourquoi. Alors, on l'adresse souvent aux médecins, cette question du pourquoi, et puis parfois, on ressort du cabinet sans réponse, parce que la science, peut-être aussi, ne sait pas dire aujourd'hui pourquoi quelque chose ne se passe pas dans le corps. Et il y a probablement, effectivement, quelque chose qui ne se passe pas, de fait, dans le corps, pour l'instant, en tout cas. Et du coup, cette question du pourquoi, elle est parfois saisie par certaines personnes et pas par toutes. Et donc, loin de moi l'idée de l'imposer. Mais ce qui me semble intéressant, c'est d'envisager non pas des réponses qui seraient des vérités, mais plutôt une exploration du sens des sens qu'on peut associer à cette difficulté-là transitoire. Parce que dans cette quête de sens, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui va permettre de retrouver un sentiment de cohérence. C'est-à-dire que je peux à nouveau replacer ce qui là a fait choc, a fait effraction, les murs que je me suis pris, je peux les remettre dans une histoire. Je peux écrire une histoire, une préhistoire, qui soit porteuse pour ma vie, pour notre vie de couple et pour cet enfant à venir. C'est ça la question du pourquoi et du sens. Je crois que c'est quelque chose qui doit aller dans le sens de soutenir et porter ce désir et intégrer ce qu'on a pu rencontrer de difficultés ici et là dans une trame de sens et dans une trame de narration, une histoire qu'on peut se raconter et raconter et qui va nous aider à cheminer encore.
Oui, on retrouve cette question de l'élan vital et de comment nourrir l'élan vital, mais on va y revenir. En tout cas, dans tout ce que vous avez dit, voilà, Guillaume, Marguerite, Estelle, hein, on entend bien qu'il n'y a pas de causalité unique. Toujours plurifactoriel, en tout cas parfois, comme je disais, ces personnes qui arrivent et qui me disent c'est dans ma tête, il faut que vous trouviez ce qu'il y a dans ma tête et le débloquer. Moi déjà je crois pas à ça. Donc déjà, voilà, souvent je leur explique pourquoi je crois pas qu'il y a une chose unique qui bloque, voilà, et c'est voilà, là aussi comment remettre de l'élan vital et de s'abstraire de cette envie qu'on a tous, voilà, de trouver une clé magique qui va répondre et donner du sens, des explications, et que là aussi, à nouveau, il y a des choses qui nous transcendent, qui nous dépassent.
L'enjeu du sens n'est pas seulement l'enjeu de la compréhension intellectuelle des choses, c'est aussi l'enjeu de notre corps de sensation, de notre corps d'émotion, c'est-à-dire pouvoir donner du sens, comme je disais, qui permet d'être en cohérence et du coup d'avoir l'énergie, la force d'avancer, de faire le pas de plus, le cycle de plus. Et puis c'est aussi le sens d'avoir une direction, comme vous le disiez très bien Marguerite, avoir un cap ou savoir qu'il y a plusieurs chemins possibles.
Estelle, puisque voilà, c'est votre formation, la question du transgénérationnel, en tout cas c'est ce qui anime beaucoup votre pratique, comment vous travaillez cette question avec les personnes que vous accompagnez, et puis voilà, quel lien vous faites entre voilà, ces questions transgénérationnelles et le désir d'enfant?
Alors en fait, moi j'ai l'idée que un enfant s'incarne à travers différentes matrices, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a le corps que vous emmenez chez le médecin pour lui demander pourquoi il ne se passe pas ce que vous souhaiteriez qu'il se passe, mais il y a aussi des dimensions personnelles, je dirais, et psychiques, intrapsychiques, et puis la dimension du couple, on y reviendra. Et puis, avant d'être un homme, une femme, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été une petite fille, un petit garçon, vous êtes inscrit en tant qu'enfant, puis en tant qu'adulte, dans une trame familiale. Et donc, dans votre désir de devenir parent, vous allez, faire avancer ce tissage qui est le tissage familial, puisque cet enfant que vous désirez, il va faire de vos parents des grands-parents, ou en tout cas des grands-parents de cet enfant-là, et cet enfant aura des oncles, des tantes, etc. Donc, il me semble que c'est difficile de décorréler la venue d'un enfant de la trame familiale plus large que le couple dans lequel cet enfant vient s'inscrire. Et la question qui se pose à moi en tant qu'analyste transgénérationnelle quand une difficulté fertile apparaît, c'est finalement qu'est-ce qui pourrait faire que cette place de parent, de père, de mère, soit pas si évidente que ça à prendre dans cette dans ce système familial-là, qu'est-ce qui pourrait faire que la place de cet enfant, garçon, fille, aîné, soit pas si évidente que ça à prendre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le passé de cette famille? Et ça peut être un passé pas seulement au niveau des parents ou des grands-parents, mais ça peut être encore au-delà. Qu'est-ce qui, dans ce passé, n'est pas passé d'une certaine manière, n'a pas été métabolisé, je pourrais dire, reste douloureux, actif, presque radioactif, et fait qu'on se retrouve dans une espèce de forme de répétition qu'on ne sait pas penser, de quelque chose de douloureux, qui est de l'ordre de la perte, puisque finalement, mois après mois, vous expérimentez, plus ou moins douloureusement, cette perte de désirer et que l'enfant ne soit pas là. Le sens de cette pratique, c'est d'aller regarder ce qu'il peut y avoir de perte, d'impensé et d'impensable, de douloureux dans cette famille, parfois de secret autour de la filiation, mais pas toujours, et qui amènerait peut-être, et c'est une hypothèse, à une forme de répétition. Et aussi à une invitation à la transformation de cette douleur.
Vous avez un exemple ?
Bien sûr. Quelque chose que je vois assez régulièrement, sans en faire évidemment une règle, c'est en remontant dans les générations, la perte d'un enfant. Par exemple, à la génération des arrière-grands-parents, un enfant de la fratrie est décédé. On imagine bien les répercussions, à la fois pour les parents et pour le reste de la fratrie. Souvent, la nécessité de vivre, de survivre, et donc la difficulté à faire ce deuil, en fait. Et on va observer à la génération d'après, dans le récit des grands-mères, la mémoire de fausses couches. Et puis, à la génération des mères, il sera question parfois d'avortement, d'IVG. Et puis, à la génération des filles ou des petites filles, eh bien, des questions de fertilité. Ce qui me semble faire lien entre toutes ces situations-là, c'est la perte. C'est-à-dire qu'une mère a perdu un enfant, une autre a perdu la chair, le sang et a versé des larmes. Une autre a voulu prendre le contrôle d'une certaine manière sur cette perte-là, se dire qu'à un certain endroit, elle le décidait peut-être. Et puis pour les filles, tout ça n'a plus de sens, on a perdu la mémoire, enfin on a perdu le souvenir de cette mémoire-là qui s'incarne. Et en même temps, mois après mois, on perd ce sang et on verse ses larmes. Voilà, ça peut être une façon d'illustrer ces transmissions dans les familles. Il y a bien d'autres situations, bien évidemment, et le fait qu'un enfant ait été perdu ne prédétermine pas qu'il y aura des problématiques de fertilité, bien évidemment.
Oui, il y a toutes ces situations autour de la question du secret, voilà, autour des, alors, d'événements autour de la natalité qui ont pu se passer, comme vous l'évoquez, la perte d'un enfant, des fausses couches, des IVG. Soit il y a eu cette perte de souvenir de la mémoire, soit vraiment quelque chose de l'ordre du secret. Voilà, où là, finalement, dans la perte du souvenir, voilà, les choses se font naturellement, tandis que dans le secret, il y a une volonté de
ne pas se souvenir,
ouais, ce qui est un peu différent,
de ne pas transmettre, ce qui est un petit peu différent, en effet. On peut penser à des situations comme les situations des femmes qui se retrouvent, je dirais presque par nécessité, autant que par volonté, à concevoir un enfant toute seule, dans bien des situations, en reconstituant l'histoire familiale et la généalogie de cette famille, en construisant un arbre de cette famille qu'on appelle un génogramme dans notre jargon, qui est avec un certain nombre de codes, eh bien, on se rend compte qu'à un étage ou à un autre de l'arbre, il y a eu, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque une fille-mère, et donc un enfant bâtard. C'est pas très heureux comme terme, mais je le nomme comme ça parce que c'est comme ça que c'était nommé, avec toute la honte que ça embarquait, toute la culpabilité aussi que ça pouvait embarquer. Et finalement, il y a comme, souvent dans une forme de loyauté ou d'identification inconsciente, pour ces femmes qui vont concevoir en solo, une répétition de cette histoire-là, mais dans un contexte complètement différent en termes de conscience, en termes de choix, et je dirais en termes de rapport à la honte et à la fierté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient se réhabiliter de cette histoire honteuse qui était tenue secrète.
Ce avec quoi je travaille beaucoup, c'est la question de l'empreinte de naissance. Mm-hmm. Et donc, dans cette transmission transgénérationnelle aussi, comment sa propre naissance, on l'a déjà dit, la manière dont on a été désiré, sa propre naissance, la manière dont nos parents se sont occupés de nous, nous ont accueillis, et puis se sont occupés de nous dans les semaines, les jours, les mois qui ont suivi, puis tout au long de notre enfance, voilà, viennent aussi imprégner.
Mais ça vient imprégner notre désir. Effectivement, la façon dont on est désiré et accueilli, puis élevé ensuite, ça va effectivement venir nourrir notre désir ou peut-être créer certains empêchements, certains doutes, certaines insécurités aussi. Et puis, on évoquait l'empreinte de naissance dans le vécu de la conception, de la grossesse de notre mère, dans la façon dont elle a accouché, et puis la façon dont on est déclaré, reconnu, prénommé, etc. On peut retrouver des fils aussi de cette histoire familiale. Mmh. Les prénoms ne sont pas toujours là par hasard. Ça vous fait sourire, Marguerite.
Ouais, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère, donc c'est pour ça.
Alors peut-être que vous aurez l'envie, le goût d'aller regarder de plus près la biographie de votre arrière-grand-mère et comment son histoire peut être porteuse pour vous.
Enfin, j'ai plus trop de sources pour aller avoir les informations, parce que j'ai pas posé les questions avant, mais bon.
Alors il y a les sources effectivement du récit familial qui sont très importantes, et puis après on peut aussi s'appuyer sur les sources généalogiques pour reconstituer quelque chose d'un parcours biographique. Et on a parfois, je dirais, des surprises, des choses qui nous touchent, des choses qui nous nourrissent aussi dans notre désir de parentalité, qui peuvent parfois donner du sens à la façon dont les choses se passent ou ne se passent pas. Pour exemple, je pense à une personne que je reçois qui est dans le désir de son deuxième enfant, et ce deuxième enfant ne vient pas. Et finalement, en ouvrant son arbre, elle a pu réaliser qu'elle portait le même prénom que son arrière-grand-mère, laquelle arrière-grand-mère avait été veuve très tôt après avoir mis au monde une fille et une seule fille. Et donc, on entend bien que pour cette femme veuve, devenue chef de famille avec cet enfant, eh bien, il y a eu probablement mois, après année après année, le vécu douloureux, non seulement de la perte de son mari, mais de tous ses enfants qu'elle n'a pas eus, et notamment d'un deuxième.
En tout cas, là, comme vous nous en parlez, Estelle, ça peut paraître un peu magique. Ça me semble important de rappeler que c'est comment aussi cette histoire transgénérationnelle, elle va venir faire écho. Quelles émotions elle suscite, ça peut ne pas du tout parler et ne pas avoir de sens dans ce qui est vécu dans l'ici et maintenant pour une personne, et puis pour d'autres, voilà, ça va avoir du sens, des échos émotionnellement, être très chargé. C'est cette charge émotionnelle aussi qui va donner de l'indication si on touche juste ou pas, ou si ça a du sens ou pas.
Voilà. En effet, encore une fois, ce qui se passe dans la famille n'est pas forcément, ne constitue pas des déterminants absolus de difficultés fertiles, loin de là. Et je crois qu'il n'y a pas de vérité en la matière. Encore une fois, ce qui est important, c'est le sens qu'on y donne et comment ça nous amène à développer des ressources.
On l'a beaucoup dit, cette question de l'élan vital, et de maintenir cet élan vital et de nourrir l'élan vital qui nourrit le désir. Estelle, qu'est-ce que vous proposez aux personnes que vous accompagnez pour nourrir cet élan vital?
On entendait tout à l'heure comment c'est difficile de dire de quoi est fait notre désir. Alors, ce que je propose souvent, c'est de passer par l'inconscient. Je propose souvent de faire des collages en couple autour du désir d'enfant, d'aller choisir des images qui font écho à ce que l'on désire pour sa vie. Pas seulement coller des photos de bébé, mais voilà, qu'est-ce qu'on désire pour sa vie et comment ce projet de parentalité vient s'inscrire dans nos désirs de façon plus générale. Et à travers ces collages émerge souvent une vision partagée dans une co-création qui fait beaucoup de bien au couple et qui le guide dans le temps. C'est une des façons, parmi d'autres, de venir soutenir ce désir, le cultiver et de garder un horizon qui soit un horizon vraiment vivant et joyeux.
En tout cas, là, dans ce que vous dites, Estelle, j'entends qu'en nourrissant le désir d'enfant, il s'agit aussi de nourrir d'autres désirs, que la vie ne se résume pas au désir d'enfant, voilà, qu'il y a d'autres choses aussi à nourrir et qui, en ricochet, vont nourrir le désir d'enfant. Vers quel type de professionnel les personnes peuvent se tourner ?
Alors, je pense vers les psys en tout genre, également vers certains somatothérapeutes qui ont aussi cette écoute sensible de ce qui se passe dans ces parcours. Je crois que idéalement des spécialistes du sujet, des personnes qui connaissent les parcours, les questions.
Dans les somatothérapeutes, vous pensez à quel corps de métier, par exemple ?
Alors, on parle souvent des acupuncteurs et des ostéopathes qui, effectivement, je crois, se forment de façon pointue sur ce sujet-là, non seulement dans leur clinique particulière, mais aussi avec une écoute psy, parfois vraiment précieuses. Parfois, on parle d'ostéopathie intrapelvienne. Il est question, effectivement, de ce qui se passe dans nos matrices, dans nos fondements, dans nos assises à la fois personnelles et familiales.
En tout cas, vous nous l'avez bien dit, Estelle, mais Marguerite et Guillaume aussi, hein, à quel point le désir d'enfant met en mouvement, voilà, que c'est un formidable moteur vital qui permet parfois d'accepter des choses très difficiles, des parcours longs, des étapes parfois douloureuses. Parfois aussi non accomplies peut nous faire éprouver le manque, voire le désespoir, la tristesse. Hein. Vous nous l'avez dit aussi, Marguerite. Et on a vraiment souligné l'importance hein, d'explorer ce qui nourrit le désir et puis de nourrir le désir d'enfant, mais les désirs en règle générale. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Est-ce que des lectures ou autres?
J'arrive pas à me souvenir de son nom. Ah, c'est une bande dessinée qui va sortir à la fin du mois qui s'appelle Un bébé si je peux, dont un extrait en fait avait été publié dans une revue que j'aime beaucoup, qui s'appelle la revue 21. C'était vraiment une belle lecture et j'attends avec impatience du coup cette bande dessinée qui sort à la fin du mois.
Estelle, qu'est-ce que vous nous recommanderiez?
Alors là, la proposition de Guillaume me donne envie de vous parler d'une autre BD qui s'appelle De père en fille de William Roy, qui parle du parcours du désir et du projet d'enfant au masculin. Je le recommande chaudement. Et puis, sinon, j'ai évoqué la possibilité de créer, de coller, de faire un collage ensemble, etc. Peut-être je vous proposerais de taper sur votre moteur de recherche préféré fiv.fr, qui est un site dédié sur lequel j'ai publié des propositions d'ateliers très simples à faire en solo ou en duo. Vous pouvez taper fiv.fr associé à mon nom, Metro, M-E-T-R-O-T. Vous allez retrouver toute une série de propositions et d'articles.
Des propositions très chouettes.
C'est un site que j'ai bien parcouru aussi.
Dans les lectures, il peut y avoir aussi Les verrous inconscients de la fécondité de Joël Desjardins-Simon et puis un livre témoignage avec ou sans enfant de Claire Musiol.
Oui, qui questionne justement, enfin qui témoigne de l'évolution de ce désir d'enfant, de la façon dont il émerge, comme nous en parlions en début d'entretien, et de la façon dont on peut passer d'un un enfant non, ça n'est pas pour moi, à finalement justement cette rencontre avec l'urgence du corps, l'urgence intime. Qui est un très beau témoignage, très bien écrit.
Oui, là, du coup, dans ce que vous dites, Estelle, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur cette question de l'évolution du désir, voilà, qu'il évolue dans le temps, et puis voilà, qu'il se nourrit de la vie, des expériences, et puis quand il y a d'autres enfants aussi, il continue d'évoluer, il reste en mouvement, vivant. Un très grand merci, Marguerite et Guillaume, d'avoir accepté mon invitation et d'être venus partager avec nous ce que vous vivez aujourd'hui. Un très grand merci, Estelle Philippot-Métro. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne, analyste transgénérationnelle, spécialiste de l'accompagnement préconceptionnel. Vous consultez actuellement en ligne et qu'on peut vous retrouver sur medoucine.com. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.